Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2023, il sonne 11h. Nous avons tous compris, c'est l'heure de la messe quotidienne ou du culte quotidien, si vous voulez, ou encore du prêche de tous les jours. Le club La Presse qui s'anime ici à Canal FM, mais qui est suivi un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde entier grâce aux médias partenaires Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga-Niamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix à Takpamé, Radio Lumière à Nero, mais également les confrères numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio, les applications Canal FM et même la chaîne YouTube. Michel Victor Bekoku Tomega et aux différentes manettes techniques avec à ses côtés Kodjo Gérald Akucha qui met l'émission en ligne, même à l'endroit des internautes. Nous vous saluons. Comme je salue les trois confrères dont deux déjà installés, le troisième qui va prendre siège, juste le temps que nous découvrions la pensée du jour. En fait, ça aurait pu être la pensée du mois, hein, ce mois d'octobre, décrété par le Togo et les sept autres pays de l'UEMOA pour faire la promotion du consommer local. Ce qui nous inspire cette phrase, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons si nous voulons réellement relancer notre croissance économique et devenir un pays émergent, pourquoi pas développé. Fabrice Patompetezi, bonjour.
Bonjour à toi Sass, je dis bonjour également aux confrères ici présents. Bonjour à toute l'équipe technique et je n'oublie pas nos chers auditeurs et auditrices de Canal FM.
On dit communément que la charité bien ordonnée commence par soi. Même si nous voulons vendre nos produits à l'extérieur, nous devons en être nous-mêmes les premiers ambassadeurs.
Oui, naturellement, c'est important parce qu'aujourd'hui, je crois que le véritable problème que beaucoup de pays africains ont, ils sont tout simplement des consommateurs des produits venant d'autres pays, ils n'en sont pas producteurs. Je crois que lorsqu'on ne produit pas, c'est pas une bonne chose. Et quand on produit, il faudra également faire la promotion de nos produits en interne avant d'essayer de les exporter lorsqu'il y a un excédent. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui sur le marché, des produits locaux qui sont sérieusement concurrencés. Si je dis concurrencé, même je suis encore un peu plus gentil, carrément éclipsé par les produits venant de l'extérieur. Je donne l'exemple du riz. En passant, nous produisons du riz. C'est vrai que ce n'est pas une très grande quantité, mais la petite que nous produisons, nos populations s'intéressent très peu. Plusieurs raisons expliquent cela. Et c'est pour cela, ce mois du consommer local, moi je souhaiterais que ça ne se limite pas aux slogans, aux belles phrases, aux beaux discours, et qu'on pose vraiment de réelles questions sur notre production et notre consommation pour qu'au fil des ans, qu'on puisse au moins faire le bilan, voir qu'est-ce qui a évolué. Si on peut prendre peut-être un produit par an pour en faire une réelle promo et que les Togolais connaissent ce produit-là, je crois qu'au fur et à mesure, on évolue. Mais quand on englobe tout, on dit consommer un produit togolais sans savoir exactement qu'est-ce qu'on produit. Hier, j'ai été fier quand j'écoutais l'émission et quelqu'un parlant d'un café qui est produit au Togo et qui est consommé et qui est de très bonne qualité. Je crois qu'il faut savoir qu'on produit et maintenant amener les gens à consommer.
Merci Sylvestre Kokou. Bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs.
Béni de son patronyme. Consommer local, Fabrice, exhorté à prendre au moins un an. Mais disons quand même que nous saluons ceux qui consomment les médias togolais, ceux qui lisent nos journaux, écoutent nos radios, suivent nos télévisions, ceux qui également s'habillent auprès des couturiers et des couturières togolaises ou togolaises. Ceux qui achètent les produits de nos paysans, au moins, si on commence par ça, on va y aller un jour.
Oui, oui, en fait, c'est le vœu de tout Togolais. Mais vous savez, le patriotisme faiblit devant la pauvreté. Voyez-vous, c'est vrai qu'on peut être beau patriote, mais lorsque les produits locaux coûtent plus cher que de moins les produits importés, tel que je le dis, on peut être beau patriote, mais on va céder puisque la poche nous oblige, nous impose même, donc de prendre ces produits qui viennent d'ailleurs, voyez-vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a une tomate au Togo, qui est produite au Togo, je crois qu'il y a une tomate d'ailleurs, Tanko Timati qui est là, mais vous voyez un peu le prix, et vous voyez le prix donc de ce que le Chinois a importé, vous voyez que on peut être beau patriote, mais ça, bon, si le prix, bon, je ne vais pas, si le prix de Tanko Timati est peut-être, c'est pas, je ne connais pas le prix, mais c'est à 1000 francs par exemple, et que de l'autre côté, vous pouvez l'avoir à 200, vous voyez que vous pouvez être beau patriote, vous choisirez donc ce qui est moins 10 ans. Mm-hmm. Donc c'est en cela donc il faudrait véritablement lancer une invite ou une invitation à l'État togolais de subventionner beaucoup les produits togolais parce que dans l'ensemble ça coûte et plus cher que les
demander
produits.
Également aux entrepreneurs togolais d'améliorer la qualité,
surtout l'emballage parce que
alors,
ça va.
Vous savez qu'au Club La Presse nous sommes grands consommateurs des noms et des prénoms togolais. Et ce matin, je suis tombé sur un que je vais essayer de partager avec vous. Mon ami est passé à la radio et il s'appelle Badibizi Mondom. Donc vous voyez que c'est vrai que moi-même je me suis exercé avant de le dire. Hein, Badibizi Mondom.
Il faut bien
voilà,
manger.
Ça veut dire qu'avec le temps, nous allons y arriver. Encore que c'est facile de saluer Abel Kofi Ozi. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Canal FM.
Merci à tous les consommateurs, ceux qui font l'effort de consommer ce que nous produisons. Et nous démarrons l'émission proprement dite avec malheureusement une page noire. Nous venons de perdre un compatriote. Il s'appelle ou il s'appelait Frédéric Lekessim. Peut-être le nom ne vous dit pas grand-chose, mais il est ou il fut le directeur général de l'entreprise. Il fut bâtiment et travaux publics GER. Et nous venons d'apprendre qu'il est décédé hier des suites d'une certaine maladie qu'il traînait depuis. Toutes nos condoléances à sa famille, à sa société, à tous ses amis. Mais la question qui nous vient à l'esprit, Fabrice Patom, est-ce que l'entreprise GER, qui est l'un des fleurons du secteur des BTP, avec des extensions même au-delà de nos frontières, est-ce que GER va survivre à son directeur général fondateur?
Oui, j'espère. J'espère que cette entreprise va survivre. Ce serait vraiment l'idéal. Mais si jamais on se rendait compte que M. Lekessim est parti avec son entreprise, ce sera un double décès parce que ce serait dommage pour tout ce beau monde-là qui l'employait. Mais je crois que vous posez là un problème très pertinent qui se retrouve au niveau de plusieurs entreprises où on a l'impression que quand le patron, le fondateur n'est plus là, l'entreprise ne tient plus.
La presse.
Et c'est un problème, bon, au niveau de la presse. je crois que c'est très récurrent. Bon, c'est des petites, des micro-entreprises. Mais le débat est là, parce qu'on a eu des confrères qui sont partis. Même leur journal n'a pas paru pour annoncer leur décès. Donc, cela voudrait dire que le monsieur gérait pratiquement seul et qu'après lui, personne n'a pu même faire une parution pour dire que le fondateur n'est plus. Je crois qu'il en est de même pour beaucoup de sociétés également et d'entreprises où je crois qu'il faut aujourd'hui penser à des mécanismes où même lorsque celui qui a fondé la société n'est plus là, qu'elle puisse tenir. Aujourd'hui, on a des exemples à l'extérieur où des sociétés qui tiennent sur des siècles. Et donc, je crois qu'il va falloir en arriver là un jour. Vous l'avez dit, GER, Lekessim, peut-être le nom ne dit pas grand-chose, mais quand on dit GER, tout le monde sait quand même que ça fait partie des grands noms du monde des BTP au Togo. Cette entreprise a fait beaucoup de travaux, comme vous le dites, sur le plan national. On n'en a pas assez. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, depuis quelques années, cette maladie, moi je crois que je l'ai croisée pour la dernière fois en 2020, à l'occasion de l'élection présidentielle. On a séjourné dans un même hôtel à Atapame, où on sentait le monsieur déjà abattu par cette maladie. Je crois que il a lutté malheureusement jusqu'à la date d'hier, comme c'est le destin à chacun de nous tous. Un jour on est, un jour on meurt.
Merci, que son âme repose en paix, mais vivement que l'entreprise GR lui survive et continue à prospérer pour employer les jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons et également participer à notre croissance économique. Kofi Abel, rebonjour.
Sas, rebonjour.
Eh bien, j'ouvre Santé Éducation, je tombe à la page 5 où vous nous parlez de cette opération humanitaire foraine qui s'est déroulée à Kara, au CHR, CHR Kara du 25 au 28 septembre dernier, avec plus de 200 patients qui ont été opérés de la cataracte.
Exactement, la cataracte, vous savez, c'est une maladie de l'œil qui peut amener à la cécité, qui peut amener à la perte de la vision. Donc beaucoup de gens, beaucoup de personnes traînent cette maladie, tant dans le milieu urbain que dans les milieux ruraux. Donc il y a Mercy Chip avec l'ONG Lumière Divine qui ont compris en fait la nécessité de prendre en charge ces patients, et une opération foraine a été faite au CHU de Kara où plus de 200 personnes ont été opérées avec succès. Et grâce à ce dynamisme, grâce à cette expertise de l'ONG Lumière Divine, et beaucoup de patients ont été satisfaits et cette opération a été un succès.
Merci, chapeau à ces bonnes volontés qui ont pu soulager nos compatriotes à Kara. Hein, de temps en temps, nous savons que l'ONG de Kodom, prêtez-moi son nom.
Non.
M Afrique, voilà. Qui en fait de même.
Exactement.
Il n'y a pas longtemps, c'est une autre association, Solidarité Fertile, qui a également parcouru le Togo pour soigner gratuitement certain nombre de nos compatriotes malades mais indigents. Vivement que d'autres bonnes volontés émergent. Alors nous continuons à la page 3 maintenant avec cet article. En fait, c'est une interview que vous a accordé Madame Yasmine Zerbo, qui est nutritionniste, diététicienne, et qui relève que dans beaucoup de pays africains, dont le Togo malheureusement, il y a un problème de diététique dans les centres hospitaliers, notamment ceux qui ont été opérés. Sur 4 patients opérés ou bien hospitalisés, au moins 2 souffrent de dénutrition hospitalière, la plupart même qui arrivent à mourir par faute, par manque de suivi nutritionnel.
Exactement, cette interview, on la recommande à tous les acteurs de la santé. C'est vraiment important de souligner cette problématique parce que dans les hôpitaux, le constat est fait, il n'y a pas assez de moyens pour un suivi nutritionnel des patients qui sont hospitalisés, qui sont malades. Vous savez, quand on parle de dénutrition hospitalière, il s'agit en fait d'un état pathologique, en fait, qui se caractérise par un manque d'apport nutritionnel en vitamines, en énergie, en protéines, et pour le patient. Donc, au niveau des enfants, au niveau des personnes âgées, au niveau des femmes, on constate que en réalité, les gens sont pris en charge, mais côté alimentation, côté nutrition, côté diététique, il n'y a pas ce suivi-là qui est fait. Donc, beaucoup meurent à cause de ça, et c'est pas bien. Parce que la dénutrition hospitalière, est également, c'est une cause de morbidité, comme je viens de le dire, et également de surcoût. C'est-à-dire de surcoût hospitalier. Donc, et c'est une alerte en fait qu'on lance en fait aux formations sanitaires, aux grands hôpitaux, pour qu'ils comprennent que en réalité, il est important que le nutritionniste, que le diététicien, qu'une prise en charge alimentaire, qu'une prise en charge diététique doit être faite pour le patient, pour le malade.
Autrement dit, c'est pas seulement la maladie qu'il faut traiter, mais soigner l'alimentation conséquente de ce patient.
Ce patient également.
Si le corps n'est pas solide, il ne pourra pas supporter tous les traitements.
Et qu'est-ce qu'il faut donner au patient? Quelle nourriture il faut donner au patient? C'est ça, en fait, la quintessence de la prise
Merci.
En charge.
Merci. D'un hôpital, nous passons à l'autre. Nous atterrissons à l'hôpital Dr Lafier, tout à côté ici, que vous dont vous rappelez que c'est un hôpital de référence niveau 4. Ça veut dire que les hôpitaux suivent un classement.
Dans Talafia, tout le monde connaît un peu l'envergure de cet hôpital inauguré il y a quelques mois.
Il y a quelques mois, en personne.
Exactement. Donc, c'est un hôpital comme tout autre. Tout le monde peut y aller. Et on peut comprendre que cet hôpital s'ouvre, ou bien ouvre progressivement ses services aux populations. Donc, dans cet article, nous avons fait cas de 4 nouveaux services qui sont déjà opérationnels dans cet hôpital, où tout le monde, tout malade qui veut être pris en charge dans cet hôpital est le bienvenu. Parce que un hôpital de référence de niveau 4, vous avez tous les soins possibles, vous avez tous les soins adéquats à votre portée. Donc on invite la population à y aller.
Ces quatre nouveaux services qui ont pour nom odontologie équipée d'un laboratoire de prothèses, deuxième service l'hémodialyse, troisième service la cardiologie interventionnelle avec la coronarographie, ainsi que les blocs de chirurgie viscérale, traumatologie et chirurgie générale. Alors, nous allons terminer par cet article à la page 3. Vous nous parlez d'une plante que nos amis de la région des Plateaux connaissent très bien. Il s'agit du taro, dont nous adorons le tubercule. Mais vous attirez notre attention également sur les feuilles de taro que dans la région on appelle Kotumbli.
Exactement.
Alors, les feuilles de taro que vous nous recommandez, notamment pour gérer le surpoids et ses complications.
Exactement. Le surpoids, comme l'obésité, vous savez, ce sont des maladies qui dressent le lit à d'autres pathologies, comme l'hypertension, le cancer, l'anxiété, la dépression. Et les feuilles de taro sont vraiment très nutritives. Pourquoi ? Parce qu'elles sont considérées d'abord comme des légumes. En fait, dans des légumes de la famille de boma, du chou, par exemple. Donc, ces feuilles sont composées de fibres, d'une teneur en eau qui, en fait, peut faciliter la digestion, qui maintiennent un poids santé. Donc, tous ceux qui sont en surpoids peuvent consommer ces feuilles en sauce pour maintenir un poids santé. Et également, comme je le disais tout à l'heure, les feuilles de taro aussi participent également à la régulation de la glycémie et maintiennent une bonne santé cardiaque. Donc, selon certaines études, la consommation régulière des légumes à feuilles vertes et foncées comme les feuilles de taro peuvent réduire jusqu'à 15,8% des risques de maladies cardiaques.
Merci. À découvrir à la page 3 de Santé Éducation, mais vous faites quand même nota bene. Si ces feuilles de taro ne sont pas préparées correctement, elles pourraient se révéler toxiques.
Ça, c'est l'alerte. Donc, attention.
Toujours bien prendre connaissance des recettes de santé éducation, de tout ce que nous disons, s'assurer qu'on se conforme exactement à ces recettes. Mais on n'a pas fini avec la santé. Kwaku Sylvestre Béni, rebonjour.
Oui, bonjour, ça sort.
Déjà, dans sa parution de lundi dernier, le confrère Liberté écrivait à sa manchette « Arnaque dans les centres de santé au Togo. Cara, Dapaon, trompe de suspension, pandémie de trafic de médicaments et plus spécifiquement pour 2 produits dont le prix total est de 5 900 francs. Un paysan s'est fait soutirer 30 000 francs à Dapaon. » Aujourd'hui, vous revenez, Santé Éducation, sur le même problème. Et l'article est intitulé « Malaise au CHU Cara, des médecins indélicats mis à nu ». Il est également question là de trafic de médicaments et d'indélicatesse du corps médical.
Oui, en fait, nous avons eu l'information le week-end dernier. Et donc, nous avons procédé à la vérification. Il s'est fait qu'il y a 2 patients qui ont été donc admis en soins intensifs donc, au CHU de Cara, donc mordus par le serpent. Alors,
Donc, un serpent qui mord des gens à Kara?
Oui, les patients.
Ils ne sont pas de bons gabiers.
Non, vous savez que généralement.
Sinon, ceux-là auraient plutôt mangé le serpent.
donc, ils ont été mordus par le serpent et donc admis au CHU de Kara. Et les médecins, c'est vrai que nous n'avons pas voulu donc donner les dons, mais le ministre en sait déjà suffisamment, puisque le ministre a été saisi sur le dossier.
Le ministre de la Santé.
Le ministre de la Santé, les noms ont été donnés donc au ministre avec tout. Donc, le patient, bon, le premier patient s'est présenté. Il s'agit donc d'un jeune aussi de 20 ans qui a en classe de terminale dans la région. Et le patient qui a pris donc le médecin traitant dit à la famille il prescrit donc le produit
un sérum antivenimeux
qui sont allés donc au niveau donc de l'hôpital de Kara. Ils n'ont pas trouvé, donc ils sont allés au-delà, ils sont allés donc dans une pharmacie, je ne fais pas de nom si vous voulez, c'est Lafia, et c'est là où on leur a dit que le produit coûtait 137 750. Alors le jeune est revenu auprès donc de la famille. Et pendant qu'ils se concertaient pour voir comment est-ce qu'ils pourraient donc aller acheter le produit, que le médecin traitant leur dit, eux, ils ont le produit avec eux, que deux flacons coûtent 60 000 francs. Alors, bon, comme ils ont rapidement les 60 000, ils ont donné ça au médecin. Et après, quelques heures après, le même médecin revient, qu'après analyse donc, du sang et tout, donc il doit prendre encore deux flacons.
Au même prix,
60 000. La famille redonne encore les 60 000. Notre médecin insatiable revient encore le lendemain et dit, non, que du fait donc de la santé de l'enfant, il faut encore deux flacons. Il a encore pris 60 000, ça fait ça 80 000. Alors, le troisième jour, alors que l'état de la santé, l'état du patient se dégradait, il revient le troisième jour, il dit, du fait donc de la situation, maintenant il faut aller à trois doses. Donc, il faut prendre... Et ça fait 60 000 fois 3, ça fait ça 80 000. Mais il dit au même moment, il dit à la famille que bon, puisqu'ils ont fait des efforts, s'ils peuvent donner 120 000, ils vont donc leur donner le produit. Mm-hmm. Alors devant cette situation, puisque devant de telles donc charges, la famille a alerté donc un observatoire qui est donc dans la veille sanitaire et tout, et donc l'affaire a éclaté. Le responsable donc du centre a été contacté rapidement. C'est lui qui a pris avec diligence, je crois qu'il faut le dire, parce que selon nos informations, le directeur du centre, le directeur du CHU a rapidement donc pris l'affaire et tout, et ils ont pu trouver donc le premier vaccin qui était Inocerp. Ils ont rapidement trouvé ça et on a pu donc sauver le jeune, puisque après, selon les informations, après ce traitement, le troisième jour, le jeune s'est levé de son lit. Or, maintenant, la question de savoir quel est le produit qu'on injectait donc aux patients qu'ils ne guérissaient pas. Mm-hmm. Et d'après les investigations, si vous prenez donc notre une ce matin, nous avons publié donc le produit. C'est presque un médicament de rue. C'est presque un médicament de rue. Et donc, selon l'information, ils vont au Bénin pour sa cause. En fait, quand vous lisez un peu, vous voyez un peu, c'est comme si c'est un réseau. Il y a certains qui vont au Bénin pour prendre, qui donnent aux médecins, et les médecins aussi font le jeu et puis ils prennent de l'argent. Et donc, devant cette situation, ils ont été obligés de rembourser les 180 000 aux deux familles, mm-hmm. puisqu'ils ont pris 180 000 francs aux deux patients, et ils ont remboursé avec une décharge. Nous avons même la décharge. Maintenant, le ministre de la Santé est saisi. Je ne sais pas les dispositions qui ont été prises pour l'instant, mais il faudrait véritablement que, devant cette situation, il faut les sanctionner. Comme ça, pour décourager ceux qui vont encore s'aventurer. Parce que le patient, là, il n'y a pas d'amélioration, mais tu prenais que tu continuais à prendre de l'argent. Et c'est après qu'on a su même que le produit donc qu'il utilisait, c'est après qu'on a su le produit. Mais il y a aussi une phrase que l'observatoire, puisque l'observatoire qui a saisi le ministre, nous avons compris donc de leur correspondance au ministre, et il dit que il parle que l'un des médecins a dit que nous utilisons le produit et parfois ça marche. Vous voyez, mm-hmm. C'est-à-dire que parfois ça marche. Comment est-ce que le médecin peut dire nous utilisons un produit et parfois ça marche? Donc toutes les fois que ça n'a pas marché, les gens sont peut-être où? Au cimetière? Non, il faudrait véritablement que le ministre puisse véritablement...
Le ministre étant saisi, médecin lui-même, il doit savoir comment s'y prendre. Il y a quand même un ordre national des médecins ici du Togo avec leur éthique, leur déontologie. Gageons que tout cela va suivre son cours. Mais ce qui est encore plus...
Mais la bonne nouvelle, si vous voulez dire ça, oui. La bonne nouvelle, c'est que j'ai contacté la famille le lundi. Le jeune, il a quand même repris le chemin des classes le lundi. C'est vrai qu'il n'est pas dans une forme éblouissante, mais il a pu reprendre donc, le chemin des classes le lundi. Donc espérons que
surtout, si ça puisse... Surtout s'il a une alimentation conséquente, Abel Kofi aussi.
Exactement, ça c'est vraiment important. Le traitement est toujours suivi d'une alimentation conséquente.
Merci. Alors pour terminer avec ça, finalement, le produit que le directeur du CHU CARA a pu mettre à disposition ne coûtait que 15 000 francs.
Oui.
Alors que le médecin, lui, avait pris 60 000 francs par trois fois et s'apprêtait même à augmenter cette dose-là.
Comme bon, le ministre peut-être saisi, que selon ce que nous avons, selon les prix, c'est 30 000 francs, mais l'État a subventionné cela de 15 000 francs. Donc, pour permettre à ce que, vous savez, au niveau donc des milieux ruraux, pour permettre à ce que tout le monde puisse véritablement avoir accès aux produits. Au cas où certains Togolais sont...
Donc, ce cas assez avéré de trafic de médicaments, d'indélicatesse du corps médical, le ministre ayant été saisi, attendant la procédure. Fabrice, l'autre pan de la question, c'est une certaine partie du pays qui n'est pas desservie, qui n'est pas, où il n'y a pas de pharmacie. Alors, à ce sujet, le confrère Le Mania Libéré titre aujourd'hui « Manque de pharmacie, l'Ordre national des pharmaciens tire la sonnette d'alarme ». Déjà, nous en parlions lundi, mais nous y revenons. L'Ordre des pharmaciens et l'État togolais, il faut quand même que tout le monde s'y mette pour que nous ayons des pharmacies en bonne et due forme ou au moins des dépôts de pharmacie un peu partout dans le pays.
Oui, le faux, c'est vrai que c'est... Et quand on le dit à partir du studio de Canal FM, ça peut paraître quand même bizarre pour ceux qui habitent Lomé, parce que Lomé est bien desservi. Il y a plusieurs pharmacies dans plusieurs quartiers. Mais après cela, je crois que ce n'est pas la même chose sur le reste du territoire. Et depuis que je ne sais pas si l'État même, avec son fameux Togo Pharma, existe encore sur le terrain, à l'intérieur, j'en sais rien. Mais effectivement, bon, c'est des privés qui s'organisent. Et l'ordre, si vous permettez la tautologie, est très bien organisé. Elle est bien en ordre. L'ordre est en ordre, surtout au niveau des pharmacies. Et c'est pas n'importe qui s'aventure. Leur milieu est bien protégé. C'est pas comme le nôtre, où tout le monde rentre.
Ah, nous aussi, nous organisons.
Ouais, parce que, bon, je crois qu'à ce niveau... que n'ouvre pas une pharmacie n'importe qui. Et vous allez vous rendre compte que, apparemment, il y a personne qui met la clé sous le paillasson parce que ça ne marche pas. Et donc, je crois que maintenant, il faut faire de telle sorte que le pays puisse être couvert et qu'on ne soit pas obligé de parcourir des kilomètres pour retrouver une pharmacie et s'approvisionner en produits. Et maintenant, pour le fait malheureux dont on vient de parler, et c'est vrai que la médecine est un milieu un peu où, généralement, on ne devrait pas rencontrer certaines pratiques. Je veux bien qu'au port autonome de Lomé, les gens se dribblent sur des questions d'argent parce que c'est un monde d'affaires, mais bon, qu'on retrouve ces pratiques-là au niveau de l'hôpital, c'est un peu délicat et je crois que le Saint-Fort travaille beaucoup à cela. C'est là où il faut saluer un peu parfois l'honnêteté de ce syndicat qui, quand leur sonne de réclamer, réclame, mais qui également s'organise à rappeler à l'ordre le personnel de santé à leur devoir. Et je crois que à chaque fois que les journaux attirent l'attention sur les pratiques malsaines dans les hôpitaux, parfois le Saint-Fort même s'en saisit pour voir que, parce que ça salit la corporation, c'est des gens quand même qui sont respectables. Bon, malheureusement, il y a quelques brebis galeuses et il faudrait que ces pratiques-là cessent parce que arnaquer un malade, je crois qu'à un moment donné, vous êtes plus qu'un criminel, quoi.
Merci, l'occasion pour nous d'adresser un clin d'œil au responsable du Saint-Fort, docteur Gilbert Tchorignanou. Comme on a parlé aussi également des pharmaciens, un clin d'œil au président de l'ordre, docteur Nyassenou, Mettez-vous en contact avec l'État pour que un peu partout dans le Togo, une pharmacie ne soit pas à plus d'une certaine distance des populations, lesquelles populations sont également vos parents. Que vous soyez médecin ou pharmacien, votre parent peut se retrouver également dans un cas de besoin. L'école, nous sommes dans la deuxième semaine de la rentrée, c'est toujours l'actualité. J'espère bien que vous avez pu mettre vos enfants à l'école, vous trois ici, jeunes parents, Sylvestre Kokou, Patom, Pekézi et Abel Koufi. Ou bien toi, tu n'as pas encore d'enfants à l'âge d'aller à l'école.
Mon neveu.
Ton neveu, il va à l'école. Oui. Eh bien, l'école, le Manya Libéré revient encore sur cette tragédie survenue dans l'école primaire publique de Ngobo. Le Manya complète que le gouvernement prend des mesures, mais le Manya Libéré est d'aller plus loin, à savoir faire l'état des lieux, des bâtiments scolaires en terre battue pour éviter d'autres Ngobo. Mais pour revenir à ce drame, Kokou Sylvestre, le gouvernement a publié un communiqué pour reconnaître le drame et annoncer des mesures en termes de construction de cette école-là et bien d'autres. Et puis, dans les jours qui ont suivi, une délégation de deux ministres, Kokoroko, avec sa collègue de l'action sociale, se sont transportés sur les lieux pour réitérer les condoléances du gouvernement, de l'État aux familles et pleurer avec les gestes de circonstance. Il faut le rappeler aussi, Sylvestre.
Oui, c'est devant ces genres de situation que l'expression « à quelque chose de malheur est bon », si vous voulez, peut-être salutaire, parce que devant cette situation, oui, il y a beaucoup, donc, il y a les deux ministres dont vous venez de citer, le ministre Kokoroko et la ministre en charge de l'action sociale, qui sont transportés sur le lieu pour constater donc de visuer les faits et tout, et prendre un certain nombre donc de dispositions. Nous avons eu dit qu'il y aura sur des sites, on va construire quand même des écoles dignes de ce nom et tout. Donc ça permettra donc à la population d'avoir des installations plus modernes et donc et permettre également à ces jeunes-là d'être dans les conditions optimales pour fréquenter. J'avais toujours dit que devant de telles situations et du fait également du milieu, si rien n'est fait, il y aura un impact psychologique sur les parents. Les parents peuvent même, certains parents peuvent même oser ou refuser à ce que leurs enfants aillent à l'école, parce que si c'est l'école qui tue, vaut mieux donc me suivre pour aller au champ. Voyez-vous, donc heureusement que le gouvernement s'est empressé pour aller sur le lieu, rassurer la population et aussi prendre un certain nombre de dispositions. Mais je crois que ce drame doit quand même nous rappeler un certain nombre de choses que nous devons faire en amont. C'est l'occasion également de faire un inventaire, je ne sais pas si ou un audit, de toutes les structures, de toutes les écoles, si vous voulez, publiques au Togo. Parce que le drame de Blita, on peut en citer, si vous parcourez le territoire, il y a des bâtiments qui sont en plein incliné dans d'autres milieux. Bon, il faut pas attendre à ce que on ait encore un drame avant donc de réagir. Et c'est l'occasion donc de faire un inventaire des bâtiments, des écoles publiques qui, s'ils ne sont plus en état pour accueillir donc les enfants, comme on l'a fait pour le lycée donc de 2 février, de prendre déjà des dispositions. Mm-hmm. Que c'est ces drames-là, qu'on n'ait plus quand même ces genres de drames, parce que vous allez que ce soit à ce côté, vous voyez parfois certains établissements scolaires, vous vous posez des questions. Donc que ce drame-là puisse véritablement nous réveiller, faisons l'inventaire de tout. Si nous voyons qu'il y a des écoles qui ne sont pas, du moins ce, ne respectent pas les meilleures conditions pour abriter les enfants et dispenser les cours, arrêtons déjà, encore qu'il est en content, pour qu'on puisse voir ce qu'il a.
Merci. Voilà. L'État, le gouvernement, sans s'interpeller, parce que l'éducation, l'enseignement, c'est l'une des tâches cardinales de chaque État. C'est l'État qui définit la politique de l'éducation, qui doit mobiliser les ressources. Le Togo fait ce qu'il peut, mais avec des besoins encore immenses sur le terrain. Mais Fabrice, toi, ton journal aborde l'autre pan de cette rentrée, de cette école. On peut même dire, au Togo, il y a l'école des pauvres et l'école des riches. Pendant que l'État fait l'effort de construire ici de recruter des enseignants, des enseignants, de mettre à disposition du matériel didactique. L'État a même décrété les frais scolaires gratuits, du préscolaire jusqu'en terminale. C'est ce que tu rappelles ici, les frais de scolarité, toujours gratuits dans le public, mais de plus en plus chers dans le privé.
Oui, c'est le contraste. Et pourtant, ces élèves sont tous des Togolais, sauf que certains ont la chance d'être dans le public et d'autres dans le privé. Mais je précise que généralement, ceux qui nous font dans le privé, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller dans le public. C'est parce que le constat est clair, le public ne peut pas absorber tous les élèves. Mm-hmm. Et donc, ce n'est pas par pure gaieté que les gens choisissent d'amener leurs enfants dans le privé. C'est parce que peut-être dans la localité, il n'y a pas d'école publique. Ou alors, quand il y en a, parce que tout à l'heure, on parlait du drame de Blita. Je crois que pour avoir un agrément, pour créer une école publique, il y a des conditions à remplir. Et généralement, les fondateurs remplissent ces conditions avant d'avoir l'agrément. Il faudra que l'État lui-même donne l'exemple. Et le bon exemple, ça ne doit pas se situer seulement dans les périphéries urbaines où on a de bonnes écoles. Il faudra penser également que nous avons des localités très éloignées où l'état de lieu qui est appelé de tous les voeux, on risque même de fermer une bonne partie des écoles dans beaucoup de localités. S'il faut s'en tenir s'il faut être rigoureux sur les infrastructures qui doivent accueillir les enfants. Maintenant, en ce qui concerne la scolarité, oui, et je crois que depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé avec la gratuité au niveau du primaire, avec la COVID-19, je reprends l'adage de mon confrère, a quelque chose aussi malheur, mais bon, avec COVID-19, on en est arrivé à rendre gratuit l'école dans le secondaire et au niveau du lycée. Alors, le dernier conseil des ministres a dit que ça continue. C'est une bonne chose, c'est une décision qu'il faut saluer. Sauf que ça ne bénéficie pas à beaucoup de parents et à beaucoup d'élèves parce que une grande partie des élèves se retrouvent dans le privé ou au moment où ça devient gratuit dans le public, les frais de scolarité deviennent de plus en plus très chers, très exorbitants dans le privé. Et à cette allure-là, si on y prend garde, on risque qu'à un moment donné, nous sommes au 21e siècle, on risque que des enfants ne soient pas capables d'aller à l'école tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être recrutés dans le public et que leurs parents n'ont pas les moyens de payer leur scolarité dans le privé. Alors donc, le vœu de l'école pour tous, tant prôné par le gouvernement, si on ne règle pas ce problème de, je ne sais pas s'il faut parler d'inflation de scolarité dans le privé, à un moment donné, je vous assure qu'il y a des enfants qui n'iront pas. Et déjà, vous savez que dans ces privés-là, c'est rigoureux. À la rentrée, on vous demande d'abord une bonne partie, et puis il y a des occasions, ou alors il y a des enfants, si on lui donne l'occasion de finir l'année, il finit l'année, s'il n'a pas tout payé, l'année suivante, il ne sait pas s'il a réussi ou pas, il n'a pas son bulletin pour aller ailleurs et tout cela. Je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on salue déjà l'effort du gouvernement dans le public, mais il faudra aussi se rendre compte que dans ces privés-là, ce sont également des Togolais qui se battent pour leur pays. Il faut trouver un mécanisme, même si ce n'est pas gratuit, puisque c'est des affaires que les gens font naturellement. Les gens ont créé leur propre école, ils ont mis des moyens, c'est pour rentabiliser. Mais je crois que le gouvernement peut faire quelque chose, je ne sais pas si c'est des subventions. En tout cas, il faut trouver un mécanisme pour que ça ne soit pas le jour et la nuit lorsqu'un élève est dans le public ou dans le privé.
Je rappelle, Kwaku Sylvestre, que l'enseignement, l'éducation, c'est l'une des tâches cardinales de l'État. C'est l'État qui devrait faire scolariser tous ses enfants. Et c'est parce que l'État n'arrive pas à disposer d'écoles à certains endroits que les parents inscrivent leurs enfants dans des écoles privées. Lesquels promoteurs d'écoles privées expliquent également cette inflation à laquelle on assiste chaque année. Ils doivent payer leur personnel au moins au SMIC. Ils doivent les déclarer à la sécurité sociale. Ils doivent entourer leurs écoles d'un minimum de commodités. Pour ça, ils ont besoin d'argent. C'est pourquoi ils augmentent l'écolage. De l'autre côté, ils se plaignent qu'ils ne reçoivent pratiquement aucune subvention de l'État, ni en numéraire, ni en détachement de personnel. À ce jeu-là, et comme le dit Fabrice, si on y prend garde, il va arriver certaines parties du Togo où les élèves ne pourront plus aller à l'école parce que l'école publique n'est pas à proximité et que les parents n'ont pas les moyens d'inscrire ces enfants-là dans des écoles privées.
Oui, je crois que nous avions évoqué le sujet il y a quelques semaines au niveau donc des prix. C'est vrai que quand on fait un investissement, on attend forcément une ressource sur investissement. Mais il faudrait le faire de manière raisonnable. C'est de cela qu'il s'agit en fait. Augmenter donc peut-être que c'est augmenter de 50 000, de 40 000, je crois que c'est là où le problème se pose. Peut-être que si à l'année N par exemple c'était à 25 000 et l'année N plus 1, on nous ajoute deux fois, le double de ça, 50 000, un parent qui a trois élèves ou trois enfants dans cet établissement, ça lui fait encore un surplus de presque 150 000. Mais combien lui gagne de l'autre côté, il n'y a pas eu augmentation. Voyez-vous, c'est pourquoi. Moi, je comprends parfaitement les privés, mais il faut le faire de manière raisonnable. J'ai appris il y a quelques semaines que le ministre de l'Enseignement a pu échanger avec les responsables donc des instituts, des écoles privées, et qui se sont harmonisés sur un certain nombre de choses. J'ose croire que pour cette année, c'est déjà parti. On peut dire que c'est déjà consommé. Mais pour l'année, les années suivantes, il faudrait véritablement qu'on puisse raison garder. C'est vrai, je les comprends. Il faut un minimum de commodité. Il faut payer donc les enseignants. Et surtout, les privés qui ne payent pas les enseignants pendant donc les vacances et tout ça. Il faut régler également cette situation.
Et pour ça, ils ont besoin d'augmenter les
coûts. Oui, ils ont besoin d'augmenter. Mais il faudrait que cela soit raisonnable. C'est ce que nous disons. Oui, ils ont besoin d'augmenter parce que pour faire tous ces travaux-là, pour payer les enseignants, pour qu'il y ait un minimum de commodité, pour ceci et cela.
Et il y a aussi l'OTR.
Oui, mais tout le monde paye l'OTR. ce n'est pas une raison. Ouais. Donc, il faudrait également, c'est l'occasion également de revenir à l'État. L'État, c'est tout. Il faudrait demander également à l'État de subventionner également ces écoles-là. S'ils commencent à avoir quelques subventions, peut-être qu'on aurait assister donc à une réduction de tout ce que nous voyons. Donc l'État également pense à cela, parce que bon, en fait, l'école c'est pour former donc les listes de demain. Donc si on ne le fait pas aujourd'hui, dans 10 ans, quels seront donc les citoyens que nous aurons? Donc il faudrait nécessairement que de ce côté-là aussi, l'État puisse penser à quelques subventions. Il faut commencer quelque part, par peut-être de petites enveloppes, et après, bon, à la longue, on verra ce qu'il y en a. Puisque les privés aussi participe à la formation des élites de demain. Mm-hmm. C'est également une utilité publique. C'est également de l'utilité publique. Donc, il faudrait que l'État également subventionne ces privés-là.
Et Fabrice, à ce niveau-là, il y a un contraste. Hein. L'école publique, dans laquelle l'État met beaucoup d'argent, d'énergie, en termes de construction, d'infrastructures, en termes de recrutement, de déploiement, et d'équipement en matériel didactique, on peut le dire sans trop se tromper que si on laissait vraiment le choix aux parents, oui, ils préféreraient plutôt aller inscrire leurs enfants dans des écoles privées, oh, parce que les problèmes dans les écoles publiques, entre autres, c'est l'effectif. Je parlais hier du cas d'un CEG chez moi à Haoutoué, où on a jusqu'à 107 élèves dans une classe de 5e ou bien de 4e, et devant cet effectif, on peut comprendre que le parent préfère plutôt aller se saigner et inscrire son enfant dans une école privée de 40-50 élèves.
Oui, en réalité, l'école publique a toujours été la meilleure, sauf ce problème d'effectif que tu poses, puisque c'est pour l'État, tout le monde veut sa place à ce niveau. Parce qu'en réalité, quand vous prenez même la qualité des enseignants, dans le public, c'est-à-dire que les gens sont là où enseignent ce qu'ils doivent enseigner. Mm-hmm. Mais dans le privé, ce n'est pas ça.
Oui. Les meilleurs enseignants sont dans le public.
Les meilleurs enseignants sont dans le public. Et si vous enseignez le français, c'est que vous avez fait des études en lettres. Si vous enseignez les mathématiques, c'est que vous avez fait les mathématiques. Mais dans le privé, on a des gens qui ont fait la FASEG. Je ne dis pas qu'ils ne maîtrisent rien des mathématiques. Il y a des gens qui ont fait la FASEG, mais qui enseignent les mathématiques. Il y a des gens qui ont fait l'histojo. Au lieu d'enseigner l'histojo, on dit il peut enseigner le français. Moi, j'ai eu un prof d'anglais, en réalité, c'était un prof de français, mais on dit que, bon, comme il a fait la série A, il peut enseigner l'anglais également.
Et je comprends pourquoi tu parles.
Je suis en anglais aujourd'hui.
Je comprends maintenant pourquoi.
Et donc, il y a de ces situations-là, c'est-à-dire que dans le privé, et puis dans le public, le niveau également est respecté. On sait quel niveau il faut avoir avant d'enseigner au primaire, on sait quel niveau il faut avoir avant d'enseigner au collège et au lycée. Mais dans le privé, ce n'est pas respecté. Et vous allez vous rendre compte que les professeurs pointus, surtout dans les domaines scientifiques, on les compte au bout des doigts. Et très souvent, les privés n'ont pas cette possibilité d'avoir ce type d'enseignant de qualité. Donc, en réalité, l'enseignement public, mis à part la question de l'effectif, parce que le coût est gratuit et tout le monde veut y aller, en réalité, la qualité, c'est beaucoup plus là-bas. Et c'est pour cela, même jusqu'à l'université, jusqu'aux universités, ceux qui sortent du pays disent que quand vous sortez avec un diplôme de l'université de Lomé, vous êtes beaucoup plus crédible que tous ceux qui viendront après. Donc, ce n'est pas... Ça voudrait dire qu'en réalité, comme je l'ai dit en début, si les gens envoient leurs enfants dans le privé, parfois c'est-à-dire faute de mieux, vous n'avez pas trouvé le public, c'est pourquoi vous les envoyez là-bas. Même s'il y a quand même des écoles privées qui sont de qualité, mais il faut dire que la plupart, ce n'est pas vraiment ça. Et il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Moi, je crois qu'il faut peut-être quelques idées. On ne fait pas que des critiques. On peut procéder à la classification, tout comme on classe les hôtels. Une étoile, deux étoiles. On peut procéder à la classification des écoles. Et là, on sait que, bon, à tel niveau, vous savez là où vous envoyez vos enfants et quel est le prix également. Et donc, il faudra le faire. Parce qu'à un moment donné, même des gens qui ne sont pas capables d'offrir l'enseignement qu'il faut, le cadre qu'il faut, eux aussi, ils aventurent. Il y a des gens qui envoient des enfants dans des écoles où on paye 3 millions par an. Et quand ils y vont, ils sont d'accord. Qu'ils doivent payer. Mais il y en a qui vous font payer 100 000, mais l'enfant ne fait pas le sport. Ou s'il faut faire le sport, soit d'aller prendre quelqu'un qui n'a pas encore construit sur son terrain, on en fait un terrain provisoire. Et... Donc il y a beaucoup.
Il y a même ces écoles-là qui déversent leurs élèves dans la rue pour faire le sport.
Pour faire le sport. Donc je crois qu'il va falloir en arriver là pour qu'en réalité, on n'assiste pas à une sorte d'arnaque également. En ce qui concerne le milieu scolaire.
Alors, il y a un parent qui nous écoute et qui se gratte la tête. Hein, une école à Dido Gomelaba, Ngonyomé, où l'élève au CM1, le parent paye pour cet élève-là 44 000 francs l'année dernière. Et cette année, c'est 65 000 francs. De 44 000 à 65 000 pour...
c'est une école privée.
Une école privée.
Pour la
quatrième, l'année passée, ils ont payé 55 000. Et cette année, c'est monté à 75 000. Oui. Alors que le parent n'a pas eu d'augmentation de salaire.
Voilà, je connais bien quand même l'école. Mais sauf
donc,
voilà.
C'est un problème que nous posons. Qui de droit doit pouvoir se retrouver? Et quand on réfléchit, on va pouvoir trouver des pistes de solutions. Il est 11h49, avant la pause, nous allons parler un peu de politique. Et avec le confrère Togo Matin, qui titre aujourd'hui « Politique publique, le Togo classé dans le top 5 des pays les plus performants en Afrique ». C'est aussi 39 pays classés par la Banque mondiale. Le Togo, avec son score de 3,7, est dans le top 5. Et hier également, nous avons suivi que le Togo, avec la première ministre en tête, a rencontré le système de la Banque mondiale dans ses consultations. Et au sorti de la rencontre, le responsable de la Banque mondiale au Togo a dit que le Togo, par son score de 3,7, se positionne sur les thématiques comme la gestion économique, les politiques structurelles, les politiques d'inclusion sociale, et le score du Togo peut lui ouvrir un accès à des ressources. Et ils ont convenu de se retrouver la semaine prochaine. Si les négociations se concluent, c'est que le Togo pourra accéder à d'autres ressources de financement. Pourquoi pas pour l'école, pourquoi pas pour la santé, pourquoi pas pour les infrastructures et autres. Mais il y a un autre domaine qu'on va ouvrir. Il s'agit de ce que la manchette écrit. La manchette est à la page 3. L'article intitulé « Arise et Gagan Gupta acculés au Gabon, nécessité pour le Togo de reprendre le contrôle de la PIA ». Alors, du Gabon au Togo, quelle est la relation? Et on va y venir, mais Sylvestre, ton article dit que les groupes Olam Arise et Arise, actuellement au Gabon, ils sont critiqués et subissent de vifs reproches quant à leurs activités et leur gestion du personnel au Gabon. Oui. Alors, le problème, c'est que les deux groupes, Olam et Arise, sont également au Togo. Ils sont au sein même de la PIA. Et l'article craint que les mêmes reproches qu'on fait à ces groupes-là au Gabon pourraient être également une certaine réalité ici au Togo.
Oui, c'est les mêmes groupes, sauf qu'il y a des dirigeants pays et tout. Donc au Gabon, tel que vous avez si bien planté le décor, ils sont accusés donc, de mauvais traitements donc, du personnel, des heures de travail qui sont parfois trop longues et tout. Donc, il y a un certain nombre donc, de reproches, hein, surtout le personnel expatrié bénéficie plus donc des conditions optimales et avantageuses que les locaux et tout. Et ben, si vous prenez les mêmes acteurs, ils sont au Gabon, ils sont également au Togo. Alors, vous souvenez, nous avons même déjà parlé donc de Olam avec les expatriés qui ont plus donc le vent pour que les locaux, qui ont donc des véhicules de fonction et tout ça, alors que les locaux n'en ont pas, en parlant donc du directeur et tout. Donc, les faits du Gabon donc doivent véritablement nous réveiller, et que au niveau du Togo, il faut être dans l'anticipation. Oui, c'est vrai. Ici aussi, il y a beaucoup qui se plaignent, surtout donc des salaires. Hein. Ils estiment que ceux qui viennent de les expatriés et qui souvent sont donc des pays, hein, des dirigeants, sont beaucoup plus avantagés que les locaux, voyez-vous. Et il y a aussi ceux qui se plaignent que c'est à eux on fait plus de yeux du coup que les Togolais. Hein, ils évoquent également les heures donc de travail et tout. Donc il faudrait véritablement que on puisse regarder. Et j'ai fait un rapprochement avec le Bénin où aujourd'hui, si l'expatrié est le directeur, c'est un Béninois qui doit être le directeur adjoint. Mais vous prenez PIA, la PIA, plateforme industrielle d'analytique comparée. Mais pour faire court, on dit souvent PIA, pour à ne pas confondre avec PIA.
PIA avec Y.
Voilà, avec Y.
Oui.
Voilà. L'Y aussi nous rappelle un certain nombre de choses. Alors, donc, la PIA ici, vous n'avez pas un seul Togolais qui est donc dans la direction donc de la structure, que des expatriés. Alors, il faudrait véritablement que l'État aussi pense à cela. C'est vrai, on peut copier un peu le Bénin. Si le président est le directeur, les certifiés directeurs, il faudrait nécessairement qu'un Togolais soit là. Comme ça, l'État sait que le Togolais redevant vis-à-vis de l'État. Donc, on saura mieux faire les choses. Mais s'ils sont uniquement que des expatriés, et c'est ce qu'ils disent que vous allez croire, mais un bon matin, on peut vous dire, comme beaucoup de sociétés de la zone franche, on fait un bon matin, on dit que nous sommes en faillite, ils ramassent leurs affaires, ils partent. Mais dans ce cas qui est les locaux, les travailleurs locaux et tout ça, là, qui va s'occuper d'eux? On a souvent vu ce genre de cas où un bon matin, on dit que nous sommes en faillite. Mais s'il y a un Togolais qui est là et que la société est en difficulté, au moins lui pourra rendre compte. Il saura dire à l'État, voilà. Mais ceux-là, ils partent avant qu'on ne sache qu'il y a des soucis. Véritablement,
en fait, c'est une brèche de tour. Hein, voilà. L'article dit que bien qu'il s'agisse d'un partenariat public-privé, la présence de ressortissants locaux à des postes clés de la direction générale pourrait signifier garantie d'une meilleure représentation des intérêts nationaux. Et une prise de décision adaptée beaucoup plus à nos réalités. C'est une question de souveraineté nationale. Oui. Et d'autonomie économique. Et Patom, si nous parlons, ou bien si la manchette parle de Olam et d'Arise, ce qu'ils vivent au Gabon et qui pourrait également arriver chez nous ici au Togo, c'est d'importance parce que les Olam et Arise, sont à la PIA, laquelle PIA est entrée dans l'actionnariat du MIFA depuis 2021. Or, le MIFA, le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture, c'est une structure que l'État a mise en place pour vraiment booster les producteurs. Alors, si ce qu'on leur reproche à Olam et à Rice au Gabon arrive ici, alors qu'ils sont, ils sont dans l'actionnariat de la PIA, ça pourrait infester cette, ce MIFA et nous créer des problèmes pour la production.
Oui, ben moi je crois que tout dépend du contrat qui lie les deux partenaires. Je crois que c'est à ce niveau au départ, il faut être clair sur les éléments. Parce que ce dont on se rend compte, j'ai l'impression que parfois nos pays se pressent pour conclure des contrats où ils ne lisent pas tous les aspects, ou alors peut-être qu'ils lisent, mais ils n'amènent pas ceux qui doivent lire. Vous prenez certaines structures comme Togocom, et il y en a qui vous disent qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui est mis dans le contrat. Mm-hmm. Des trucs normalement qui peuvent être débattus à l'Assemblée nationale aux yeux et au reçu de tout le monde avant qu'on ne s'engage. Donc quand c'est comme ça, à un moment donné, il y a des choses sur le terrain, vous pensez que c'est celui qui est venu qui vous crée des problèmes, mais tout dépend de ce que vous avez accepté faire dès le départ. Moi, je pense que tout part de là. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas vu le document sur la base duquel et le Togo et ces sociétés-là se sont mis ensemble, ça va être difficile de faire un commentaire ou quoi que ce soit. Oui, je veux bien que les Togolais occupent des postes à certains niveaux, mais est-ce que ce qui se passe, ça va à l'encontre des tests ou du contrat qui a été signé dès le départ? Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut jouer, et tout est que généralement le problème de nos pays, comme je le disais, au moment où on veut conclure des contrats, comme c'est une question d'argent, on n'amène pas les bons spécialistes, les bons juristes, les vrais juristes, pour qu'ils vous disent « Ah, ça, si vous faites ça, voilà ce qui risque d'arriver. Mm-hmm. » Comme c'est une question d'argent, bon, les gens vont, ils signent, et puis bon, c'est après sur le terrain, on constate qu'il y a des choses, on croit que c'est l'autre qui est méchant, alors que c'est nous qui avions été bêtes peut-être au départ.
Oui, et tu l'as dit, certains de ces contrats devraient passer par l'Assemblée nationale. Les députés sont les représentants du peuple, c'est porter la garantie que les intérêts majeurs et stratégiques du Togo ne risquent pas d'être bradés. Ce que nous disons, ça doit un peu être entendu à l'Assemblée. Si le gouvernement ne leur soumet pas certaines affaires, l'Assemblée également peut demander, interpeller tel ministère pour chercher à savoir concrètement ce qui se fait, ce qui va se faire pour que les Togolais ne se retrouvent pas.
Mais quelle Assemblée? Pas l'Assemblée actuelle là, qui applaudit.
Même avant d'applaudir, il y a des débats, au moins. Si après votre préoccupation a été prise en compte, au moins l'histoire retiendra que vous l'avez dit. Quand je prends par exemple la privatisation de Togocom, je ne suis pas sûr que s'il y avait eu vraiment un débat ouvert, combien de Togolais seraient partants que ce qui s'est passé se passe.
Comme ça.
C'est un peu cela. Parce que, bon, voilà une structure qui n'avait aucun problème. Mais bon, maintenant, on décide. On pouvait expliquer aux Togolais, voilà les avantages que nous avons en allant dans ce que là où on veut nous amener. Et on n'est pas aussi bête, les gens vont poser des questions, ils comprendront. Même si après on fera un forcing, un jour viendra, on sait qui avait entraîné le pays là où il ne fallait pas l'entraîner. Moi je crois qu'il faut ces débats-là.
Alors deux rapides informations pour boucler la première partie. Nous parlions tantôt de l'école. Je me plaignais de cette classe de 4e qui compte 107 élèves à Haoté. Un parent nous dit que son élève est dans un collège privé à Agoué Est et ils sont 141. Pour ne pas dire l'effectif de toute une école. Et puis, dernière information, Abel Ouzi, au ministère de la Santé hier, il a été procédé au lancement de la prochaine campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ces moustiquaires seront distribués bientôt. L'occasion de nous rappeler nous-mêmes, quand on aura ces moustiquaires, il faudra bien les tendre et dormir sous moustiquaires. Et comme ça, nous serions à l'abri du paludisme.
Exactement. Bon, je crois la campagne va se dérouler du 7 au 18
octobre.
Octobre. Donc sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui est vraiment important, c'est que les ménages, c'est que les populations réservent un accueil, un bon accueil, un accueil chaleureux aux agents du terrain, aux distributeurs. Ça, c'est ce qui est important. Mmh. Et quand les moustiquaires seront donnés, distribués, il faut bien les utiliser et dormir sous moustiquaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
C'est important. C'est même important. Si l'OMS a annoncé il y a quelques jours la mise en circulation de deux vaccins contre le paludisme, c'est encore mieux de dormir sous moustiquaire et se mettre à l'abri du paludisme. Et quand le vaccin sera arrivé chez nous, nous allons faire une campagne conséquente pour que les gens comprennent le bien fondé de ce vaccin contre le paludisme. Parce que le paludisme, Abel, c'est l'une des maladies qui tue le plus en Afrique.
Oui, surtout les enfants et les femmes enceintes, la première cause de consultation dans les hôpitaux. Prévenir vaut mieux que guérir.
On ne le dira jamais assez.
Voilà.
Donc, il est midi, passé de deux minutes. Nous faisons une pause en attendant de nous brancher sur vous dans un moment. Lorsque vous aurez composé le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. 93.5. Canal FM. Nous vous avons annoncé la mort de Frédéric Lekessim. Le feu directeur général de l'entreprise GR qui s'en est allé. On a parlé de santé, éducation et ses articles. Et puis les divers sujets que nous avons discutés ici. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui. Nous vous recevons mal.
Comment vous allez?
Non, ce n'est pas toujours très bien.
Comment vous allez?
Ça va, ça, monsieur? Recomposez après, comme ça on pourra mieux vous écouter et vous répondre. Oui, le deuxième, bonjour.
Allô, bonjour, Saf.
Oui.
C'est monsieur Colani depuis Agoué.
Notre vieil ami Colani.
Oui, je me porte très bien, je vous écoute souvent et puis vous faites de bons boulots pour le Togo. Hein.
Le tien, là.
La fille, quoi, Chamba.
Eh bien, revenons en français.
Oui, ça, c'est en finissant l'émission, ou bien en terminant, tout de suite, il y a un monsieur qui a envoyé une note là, en disant qu'au niveau d'Agoué, il y a plus de 100 et quelques élèves.
141 élèves dans une classe de 6e.
Ouais, ouais, vous comprenez déjà la faiblesse de ceux qui nous dirigent. Non seulement ça, on a posté sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est Rao bien où là, où les enfants sont en train de traverser sur des bois là pour aller à l'école. Hein. Non, c'est pour dire par votre chaîne, dire au chef de l'État que son régime a atteint son apogée. Qu'ils comprennent qu'ils signent une amnistie, les gens rentrent, on libère les prisonniers, on s'assied pour voir comment décolle le Togo.
Mais quel est le rapport entre le... Monsieur Colani,
oui?
Expliquez-nous quel est le rapport entre le retour des réfugiés et les meilleures conditions à faire dans nos écoles.
Vous savez, il y a trop d'intelligence, il y a des gens qui sont à l'extérieur, il y a les fissures dans le pays, et la gestion de ce pays-là, vous êtes des journalistes, vous le voyez, ça ne va pas. Lui-même, il a reconnu ça, le chef de l'État. Même avec la gestion des fonds de Covid, vous avez vu, on ne peut pas gérer une nation comme ça. Donc nous avons besoin de nous asseoir pour un grand pardon. Mmh. Et nous regarder pour nous dire certaines vérités et déclencher le développement de ce pays-là. Les gens en souffrent trop. Pourtant, nous avons des potentiels. Les gens, les têtes bien faites. Déjà, vous êtes là-bas. On vous suit. Si on vous donne de l'espace, vous allez donner votre génie. C'est ce que nous demandons dans ce pays-là. Mmh. C'est pourquoi je dis, son régime a atteint son apogée. C'est le déclin. Il faut qu'on s'assied.
Merci, monsieur Colani.
Même autour de la sous-région. Vous voyez ce qui se passe.
Merci.
Il faut qu'on anticipe.
Merci. C'est vrai que les besoins sont encore énormes dans le pays, dont l'école, mais l'enseignement qui consomme déjà la plus grande partie du budget de notre pays, ça veut dire que nous devons redoubler d'ardeur et relever tous ces défis-là. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui. Ce n'est pas toujours très bien. Encore un essai. Je ne sais pas. Vous appelez d'où là? Ah, ah, ce n'est vraiment pas bien. Toutes nos excuses. Un autre. Oui, bonjour. Allô? Allô? Décidément ce matin. Mais nous gardons la foi, n'est-ce pas, Michel? Ok. Maintenant, oui, allô, oui, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur?
Monsieur Apedo.
Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît?
Depuis Raoultoué.
Ah bon, Apedo depuis Raoultoué?
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Je vous souhaite une bonne émission d'abord.
Merci.
Je voulais parler du collègue qui a parlé de la qualité des enseignants dans les écoles privées. Là.
Oui.
Moi, j'aurais aimé plutôt qu'on encourage ces enseignants, que l'État parvienne à les aider aussi.
Mm-hmm.
Parce que sans eux, nous imaginons un peu ce que l'éducation peut être au Togo.
Oui.
Parce que les écoles privées ont pris une grande partie, mais un pourcentage plus élevé. Mais sans eux, là, qu'est-ce que ça peut devenir?
Non, nous reconnaissons le mérite de ces enseignants dans les écoles privées, mais nous avons relevé que en matière de recrutement et de formation recyclage, les meilleurs sont dans le public, mais il faut souhaiter vivement que l'État aide également les enseignants par le recyclage, notamment Kokoroko qui a demandé que dorénavant nous devrons enseigner que ceux qui ont fait des écoles de formation. C'est ces mouvements-là que nous soulignons, que nous encourageons aussi.
D'accord, merci. C'est clair.
Merci beaucoup. Mon cousin a appelé depuis Raoultoué.
Oui, mon frère.
Merci. Le suivant, bonjour.
Oui, Sans, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
L'évangéliste Senghor.
Ah, mon frère.
Oui.
Bon,
sauf que la communication n'est pas très bonne. Vous nous appelez par sur WhatsApp?
Non.
Ah, ok. Sinon, le son n'est pas très bon. La communication n'est pas très bonne.
Ok. C'est bien. Hein?
Oui.
Vous n'arrivez pas à comprendre. Bon, peut-être que vous allez m'expliquer. Bon, nos dirigeants, ils savent avant de percer, de nous presser, qu'on diminue, c'est-à-dire, je sais qu'on va dire, ou bien ils sont dans l'ignorance.
Non, s'il vous plaît, l'ami Senghor, parlons des problèmes. Ce n'est pas un procès, nous allons juger les dirigeants. Parlons des problèmes que nous vivons au jour le jour, oui.
Nous ne jugeons pas, s'il vous plaît.
Oui, allez-y. Allô?
Oui, allô?
Oui.
Je dis, nous ne jugeons pas, non. Mais vous venez de dire tout à l'heure, il y a des besoins. Vous voyez, c'est tout et tout. Quand le frère. C'est vrai que nous sommes des humains, hein. On ne peut pas dire même moi, j'ai dit que c'est un homme. Bon, tout ce qui se passe, il y a quand même des gens qui ont dit qu'on peut aussi monter par la carrière là.
Non, excusez-moi, vraiment, la communication n'est pas très bonne. Hein, et même les auditeurs n'arrivent pas à bien vous écouter.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Franchement, ça fait froid au dos. Ce corps même a des problèmes et ces médecins en arrivent. Pourquoi? La vie est sacrée. Il y a un enfant qui gisait sur le lit d'hôpital. Et pourquoi ce médecin n'a pas le cœur?
Sylvain Agbayi, vous savez que les brebis galeuses, il y en a partout.
Il faut qu'on le sanctionne.
Merci. Gardons-nous de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parlons des faits que les gens ont faits. Mais ne globalisons pas, pas trop. Oui, le suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sasse.
Oui.
Monsieur Kossi à l'appareil.
Monsieur Kossi.
Oui.
De Sagbado.
C'est pas de Toblikopi.
Ok, allez-y.
Oui, je voulais revenir sur le malade de l'hôpital de Karak, vous avez parlé en premier lieu là.
Oui.
Bon, si les produits sont chers à faire comme une mine à la pharmacie, et que, fait de fait, ça s'avère que le produit est subventionné et que c'est à 35 000. Pourquoi la pharmacie va donner ce prix comme ça? Donc, vraiment, vous allez faire la lumière sur les pharmaciens aussi pour voir pourquoi eux vont avoir ces prix élevés comme ça.
Non, ce que nous avons dit, c'est que le médecin indélicat injectait ou bien faisait acheter aux parents un produit qui n'était même pas homologué à un prix exorbitant, alors qu'à la fin, le produit que le directeur du CHU Kara a recommandé un produit officiel qui coûtait beaucoup moins cher. Donc c'est le problème que nous avons pour, que nous avons exposé comme ça.
Oui, j'ai compris d'abord, mais c'est comme c'est pas l'ordre que les parents de ma qui est malade a été à la pharmacie pour demander le prix.
Oui. Et à la pharmacie.
Et a le prix à la pharmacie a donné ce montant.
137 000 francs CFA.
Oui, si le, ça s'avère comme ça, à la pharmacie. Non, et qu'à la fin, ça sort que c'est à 35 000 francs. Mais la pharmacie doit aussi, vous allez suivre vraiment les pharmacies là pour voir pourquoi ils montent les prix comme
chers
ça.
Amis, la solution aurait été que la pharmacie du CHU CARA fût équipée, approvisionnée. On aurait fait l'économie de tout ce drame-là. Préfère l'écoute. Merci beaucoup. L'auditeur suivant.
Allô, Sad.
Oui.
Bonjour, Monsieur Garou.
Monsieur Garou, nous vous écoutons.
Bon, maintenant, comme les classes sont trop pleines, est-ce que vous allez encore embaucher les professeurs d'anglais ou bien on va laisser tomber l'anglais?
Pourquoi seulement anglais? Tous les professeurs.
Comment on prononce l'anglais qui a la boucle?
Non, Monsieur Garou, le problème, c'est qu'il faut continuer à construire les écoles, construire les salles de classe et recruter les enseignants en conséquence.
On va les recruter. Ils vont rester où?
Dans les classes que nous aurons construites.
Ah, je prie pour que ça ne tombe pas. Merci
beaucoup. Priez beaucoup. Priez ouais, beaucoup. D'accord, merci. Mais en même temps, travaillons beaucoup aussi. Il y a un autre auditeur en ligne. Oui, merci à tous les amis, dont le suivant. Oui, bonjour.
Oui, j'aimerais participer à l'émission.
Oui, vous y êtes. C'est monsieur?
C'est monsieur Serge depuis Bekota.
Serge depuis Bekota.
Ouais,
oui. Nous sommes dans le monde du consommateur local, hein, ça commence par nos prénoms.
C'est Kodjo.
Voilà, je préfère ça. Kodjo Serge.
Oui. Mm-hmm. Bon, c'est le fait que nos bâtiments qui viennent de tomber sur nos enfants, les élèves, au niveau de Blita ou bien quelque chose comme ça, que nous déplorons aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et nous déplorons. Et les militaires qui ont tiré à bout portant sur les élèves. Jusqu'à aujourd'hui, on est où actuellement?
L'ami Kodjo.
Parce que je vois qu'il n'y a pas la différence entre ces deux choses-là. Et c'est ça que nous déclarons aujourd'hui.
Oui.
Et aujourd'hui,
oui.
Là où nous sommes actuellement, le dossier-là est où? Le fait de tirer à bon portant sur nos enfants.
L'ami Kodjo Serge, le club oui. De la presse est au jour le jour. En son temps, nous avions beaucoup parlé de ce problème-là. Nous allons y revenir. Si l'actualité le commande ainsi. Sinon, c'est un problème réel.
Oui?
C'est un problème réel. Et la procédure a été lancée. Je crois savoir qu'un jour ou l'autre, nous ferons la lumière sur tous ces cas-là.
Inch'Allah.
Merci beaucoup. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui avec la technique?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, c'est ici, oui, bonjour.
Oui, ici.
Voilà, vous avez parlé de l'éducation, de tous les secteurs qui sont tombés, quoi. Hein? Tout est tombé dans le pays. Bref, tous les problèmes existentiels dont on parle depuis longtemps. Et puis voilà, on est dedans, quoi. Et puis, moi, je veux dire... c'est parce que le régime a transformé la République en son épicerie qu'on a tous ces problèmes. Et ça s'écrit dans les livres. Il ne faut pas qu'il l'oublie.
Mm-hmm.
Ça s'écrit dans les livres qu'il y a un régime qui a régné durant 60 ans et qui a affamé son peuple. Et voilà quoi. Et ils finiront par passer quand même.
Merci. Comme nous l'avons dit, nous exposons les faits au jour le jour. Le club de la presse n'est pas un tribunal pour juger celui-ci ou celui-là. Nous parlons des faits, nous reconnaissons les défis qu'il y a sur le terrain, les efforts que nous devons faire pour améliorer. Parce que le Togo, c'est notre pays, il sera comme nous l'aurons fait. Fabrice Pétiesi.
Ah oui, c'est bien cela parce que c'est vrai qu'à chaque fois, l'État, on met l'État au centre, c'est le premier responsable, c'est l'État, c'est nous tous, c'est la société organisée comme ça. Ceux qui sont appelés à être au gouvernement font leur part, mais nous, en tant que citoyens également, nous avons notre part, et chacun, dans son rôle, joue sa partition. Nous, on est des journalistes, ce que nous pouvons faire, c'est de donner des informations. dire ce qui va et attirer l'attention de l'autorité sur ce qui ne va pas et qu'il puisse également apporter des solutions. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de ce qui s'est passé au niveau de Blita, je crois que c'est un drame que nous regrettons tous. Mais comme on l'a dit ici, il ne faudra pas que cela arrive une seconde fois. Là, on serait passé d'une étape à une étape de bêtise. Et c'est pour cela qu'il faudra que l'autorité prenne les mesures après les moments de compassion en direction des parents des victimes et tout cela, prendre des dispositions pour qu'il n'y ait plus d'autres enfants qui subissent de ce genre de situation dans d'autres écoles. Parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'écoles dans ces conditions-là où les infrastructures ne sont pas aux normes. Il faudra prendre des dispositions de telle sorte qu'à un moment donné, on ne soit pas dans des endroits où, quand il pleut ou bien quand les nuages se forment, on demande aux élèves de rentrer. Parce que, bon, après la pluie, c'est la catastrophe et tout cela. Donc, je crois que l'école... c'est un secteur budgétivore, ça il faut le reconnaître. Et et à chaque fois que les années passent, les problèmes naturellement vont augmenter parce que la population ne diminue jamais. Mm-hmm. Elle augmente. Et quand elle augmente, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, le problème que nous avons en ce qui concerne, quand vous prenez la capitale Lomé, les quartiers périphériques où la population jeune, qui ont des jeunes enfants, ils sont dans la périphérie des quartiers comme les Sogocito, les Legbacito. Pendant ce temps, il y a beaucoup d'établissements un peu du côté de la ville où la plupart des populations, c'est des retraités. Mm-hmm. Bon, alors qu'il y a une forte demande dans des endroits où, c'est-à-dire que les prévisions n'ont pas suivi. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école privée, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en fait, on n'est pas contre l'école privée. Mais on se dit que c'est les Togolais aussi qui sont là-bas. Il faut que l'État ouvre son œil. Il regarde, il donne les agréments là où il faut. Mais il faudra faire un effort. Parce que quand vous prenez le confessionnel également, qui a fait de beaux jours de l'école togolaise, je prends l'école catholique, l'école protestante, c'est des gens également qui ont beaucoup contribué à la formation de l'élite. À un moment donné, il y avait une situation où l'État envoyait des enseignants. Et aujourd'hui, l'État fait l'effort d'envoyer des enseignants dans certaines écoles privées pour rehausser le niveau. Parce que quoi qu'on dise, ils sont dans le privé là-bas parce que c'est là où ils pouvaient être. Mais quand ils sortiront, c'est des gens que l'État va utiliser. Donc, il faut avoir un regard sur tout le monde.
Merci. Un carton pour terminer tout ça?
Je n'ai pas de carton.
Sylvestre Kokou, Béni?
Non, j'ai pas de carton. Je voulais en fait revenir sur le désengorgement des voies. On a fait tant de bruit et tout ça, mais si vous voulez un peu de la vie de l'homme, vous verrez qu'il y a encore la vie. Les gens reviennent progressivement. Vous voyez tout ce bruit là qu'on a fait, on a dégagé les gens, on a cassé des choses. Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois que je n'avais même pas 9 ans quand on disait que la nature horreur du vide, c'est ça, non?
Oui.
Hein, donc quand il y a le vide, les gens reviennent progressivement.
Quand on a dégagé les abords des rues, qu'est-ce qu'on en a fait?
Rien.
Maintenant, les gens sont en train de revenir.
Oui, puisqu'il y a le vide, il n'y a rien.
Et on ne dit plus rien.
On ne dit plus rien.
Et les mêmes problèmes vont se commencer encore. Voilà. Les gens qui viennent envahir les trottoirs avec leurs étalages de marché, les piétons ne savent pas circuler ou circuler. Le maire est là, le préfet est là, le ministre qui a eu la décision, tout le monde est là. Mais les gens viennent réoccuper les mêmes places et là, ils ne disent rien.
Parce qu'il n'y a pas un projet en soi. Donc, on ne peut pas regarder le truc là. Bon, vaut mieux je commence. S'ils viennent encore, je vais quitter.
Albert Kofi aussi.
Pas de carton, juste nous sommes dans le mois du consommer local.
Oui.
Ouais, également, nous sommes aussi dans la fièvre de Octobre Rose.
Mm-hmm. Voilà. La lutte contre le cancer du sein.
Exactement. Bon, juste attirer encore l'attention des populations. Sur le consommer local, il faut consommer local, il faut consommer bio pour éviter les maladies chroniques et vivre longtemps.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain jeudi, ce sera le 5 octobre. Ah oui, 5 octobre Togo, ça doit charrier un certain nombre de souvenirs. Ouais. Nous allons y revenir demain, si Dieu le veut, prions que Dieu le veuille.